Saint-Esprit.
Amen.
Je vous lis la prière que le pape Jean-Paul II avait lue à Rome à l'occasion du Grand Jubilé le 7 mai 2000. Ça devait être une célébration œcuménique en l'honneur de tous les martyrs au moins du XXe siècle. Souvenez-vous, ô Seigneur, de tous ces hommes et femmes, dans votre infinie miséricorde, accueillez tous les justes qui sont morts dans votre paix, comme courageux témoins de la foi. Vous seul, Père de tous, connaissez leurs vertus, la bonté de leur cœur, leurs souffrances et leur entière fidélité à leurs croyances religieuses. Puissent-ils être toujours avec vous, avec tous les justes dans la mémoire éternelle, et accorder votre pardon infini et miséricordieux à tous leurs persécuteurs. Père, vous avez voulu que la mort glorieuse de votre Fils, la victime exécutée pour nos péchés, soit la source de notre réconciliation et de notre paix. Comme nous commémorons les témoins de la foi du XXe siècle, accordez à votre Église de briller dans le monde avec la splendeur des béatitudes. Puissent tous les fidèles être témoins d'une nouvelle humanité, rachetée par le sang de l'agneau et unifiée par votre esprit d'amour. Nous vous le demandons par le Christ notre Seigneur. Voilà, donc nous abordons aujourd'hui la 8e et dernière béatitude chez saint Matthieu, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 10. Je vous rappelle que j'avais proposé ce découpage en entretien parce que j'avais envie d'en faire une au mois de mai sur la Vierge Marie. « Bienheureuse celle qui a cru », c'est quand même une béatitude dans l'Évangile, et finir au mois de juin par une béatitude sur l'Eucharistie, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, d'après l'Apocalypse. Cette béatitude, c'est la plus longue à la fois chez saint Matthieu et chez saint Luc, puisque les deux la rapportent. Elle commence, comme commencent toutes les béatitudes, par une phrase classique, « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Et elle se poursuit par un développement de deux versets. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera ou qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Et l'équivalent chez saint Luc. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Je vous fais grâce de la traduction de la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, de la Botte, la Bible hostie trinquée, et je vous fais même grâce de la traduction de Chouraki, qui est toujours très originale. Mais à force, on s'habitue à l'originalité. J'ai noté quand même dans ces traductions qu'il y avait des différences de mots. Moi, je ne suis pas compétent pour savoir quelle est la meilleure traduction. J'ai noté aussi qu'il y avait des différences dans le temps des verbes, et ça m'a un peu plus étonné. Certains verbes dans certaines traductions sont mis au présent, et certaines sont mis au futur. Et là encore, je ne suis pas compétent, moi, pour trancher, mais ça nous montre quand même que dans une béatitude, il y a forcément un moment, une réalisation actuelle au moment où la béatitude se vit, et déjà un bonheur qui commence en vivant la béatitude, et ça on l'a dit tout au long de ces entretiens, et un bonheur à venir encore plus grand. On peut se demander pourquoi le Christ développe ainsi cette dernière béatitude. Peut-être parce que d'une certaine façon, elle résume toutes les autres. Toutes sont incluses dans celle-ci. Chacune des béatitudes concernait un aspect de la vie, et cette dernière concerne toute la vie entière, puisque Jésus déclare bienheureuse la personne qui va subir violence pour le nom de Jésus, et une violence à un tel point qu'elle peut en perdre la vie. Donc effectivement, cette ultime béatitude, parce que c'est la dernière et parce que si on prend la vie, on ne peut plus rien vivre après sur terre, les résume toutes. Mais en même temps, elle est l'aboutissement des autres, c'est aussi parce que j'aurai acquis un esprit de pauvreté, que j'aurai eu l'esprit de justice, que je serai préparé à vivre cette béatitude s'il m'est demandé de la vivre. Dans les précédentes, c'est un choix qui s'offre à l'homme, celui de la paix, celui de la douceur, celui d'être affamé de justice par son comportement, par les choix qu'il fait dans sa vie. Et ici, il faut trouver la béatitude dans la persécution elle-même qu'un autre va me donner, va m'apporter. Donc la démarche n'est pas tout à fait la même. Et celle-ci peut nous paraître plus paradoxale que les autres, parce qu'à chaque fois, il y avait une apparente contradiction entre la possibilité de trouver le bonheur quand on est affamé, trouver le bonheur dans les larmes. Et ici, la contradiction peut nous paraître encore plus grande, apparemment, puisqu'il s'agit de trouver le bonheur dans la violence qui nous est faite, y compris au point de perdre sa vie. Et cette béatitude nous amène finalement à réfléchir sur l'ensemble de notre vie. Il y a donc une hiérarchie des valeurs avec des choses qui doivent être plus importantes que d'autres. Et tout le monde va nous dire que la vie est un des biens les plus précieux. En tout cas, c'est le premier qu'on reçoit de la part de nos parents dès l'instant de notre conception. Et cette dernière béatitude nous invite à établir une hiérarchie des valeurs. Il n'y a-t-il pas des valeurs qui méritent qu'on perde ce bien extraordinaire qu'est la vie humaine parce que d'autres valeurs seraient encore supérieures à la vie humaine? Autrement dit, la grande question, c'est il ne suffit pas de vivre, mais encore faut-il avoir des raisons de vivre? Et est-ce que ces raisons de vivre ne sont pas aussi en même temps des raisons de mourir? On peut noter dans cette dernière béatitude, donc développée sur 3 versets, qu'il y a 4 fois le mot « joie ». Il y a une insistance de Jésus dans cette dernière béatitude sur la joie. La joie, l'allégresse, réjouissez-vous. Et qu'il y a un parallèle chez saint Pierre, première lettre de saint Pierre, chapitre 4, verset 3, où c'est pareil, où saint Pierre développe la même idée de se réjouir lorsque nous sommes outragés pour le nom du Christ. Grand 1, il y aura 4 grandes parties. La première, des remarques autour de cette béatitude. Et je vais commencer par poser une question. Est-il opportun d'étudier cette béatitude ? Parce que parler de persécution, aujourd'hui, ça renvoie forcément à l'actualité. Est-ce que ce n'est pas beaucoup orienté notre propos que de parler de persécutés parce qu'on va aujourd'hui penser à tous ces chrétiens persécutés dans le monde et donc à ceux qui les persécutent? Est-ce que parler de cette béatitude aujourd'hui ne va pas entretenir un climat dont on dit quelquefois qu'il risque d'être islamophobe ou un sentiment islamophobe? Pourquoi faudrait-il s'intéresser aux seuls chrétiens qui souffrent et pas à toute personne qui souffre? Pourquoi vouloir médiatiser la cause des chrétiens persécutés alors que chaque catégorie de personnes va réclamer qu'on parle aussi d'eux-mêmes? Et je rappellerai simplement que lorsque Jésus a prononcé cette béatitude il y a 2000 ans sur la montagne, il ne pense pas à ce qui va se passer en l'an 2000, il pense à toutes les situations de persécution. Donc il ne stigmatise aucune catégorie de persécuteurs. Il prend simplement, j'allais dire la défense, des chrétiens qui seront persécutés en son nom. Et il avertit ceux qui veulent être ses disciples que parce qu'ils portent le nom du Christ, ils sont en puissance des persécutés. Je soulignerai aussi que Jésus parle des persécutés en disant « Vous êtes bienheureux, voilà pourquoi », mais qu'en l'occurrence, il ne critique pas ceux qui persécutent. Il n'y a pas un mot pour les persécuteurs. Et il me semble que ne rien dire, ce serait enfouir leur souffrance dans l'oubli et étouffer leur cri, le cri des persécutés, dans un silence qui serait, à mon avis, coupable. Le seul soutien que puissent avoir aujourd'hui les persécutés, c'est qu'on parle d'eux, qu'on signale leur cas et qu'une émotion ou une réaction internationale puisse venir à leur secours. C'est quand même parce qu'on se bouge que la RATP finalement va accepter de mettre des affiches, que notre ministre des Affaires étrangères accepte d'intervenir à l'ONU, mais on n'en est qu'au stade des interventions orales. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est venu en France en 1980, nous a laissé cette phrase « Vous n'avez pas le droit d'oublier le martyrologe contemporain. » Et saint Paul dit aux chrétiens qu'ils doivent être solidaires les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. 1 Corinthiens 12:26. Donc, après avoir écarté cette objection générale sur l'opportunité de parler de cette béatitude, premièrement, qu'implique donc cette béatitude? Et là encore, je vais commencer par lever des interrogations. Cette béatitude est-elle juste? Parce que parler de persécuter, c'est dire qu'il y a des persécuteurs. C'est dire qu'il y a des violences, et même des violences de mort, qui sont exercées par les uns contre les autres. C'est dire qu'il y a des bourreaux contre des victimes. Et donc, est-il juste de dire que ces situations de violence extrême puissent être motif de joie? Est-ce qu'avant de parler de dire « bienheureux les persécutés », on ne devrait pas dire « malheureuse persécution » ? Parce que toute persécution est un acte de violence, physique ou morale, de violence extrême qui peut aller jusqu'à ôter la vie. Et que s'il y a des persécutés, il y a bien des persécuteurs qui sont responsables de leurs actes, qui sont responsables de la violence qu'ils provoquent chez celui qui est persécuté et de la souffrance qu'ils provoquent sur tous ceux qui sont autour des persécutés. Et que le persécuteur lui-même est en train d'abîmer son âme, peut-être de faire mourir son âme. Et donc peut-on parler, et là dans cette situation, de trouver un état bienheureux, d'y voir une bénédiction? Parce que ça révèle une opposition contre Dieu, un refus de Dieu, et une lutte à mort finalement au-delà des persécutés, une lutte à mort contre Dieu. Cette béatitude, elle va aussi contre le commandement « tu ne tueras pas ». Parce que poussé à l'extrême, s'il y a des persécutés qui meurent martyrs, ça veut dire qu'il y en a qui prennent la vie de ces martyrs. Et le catéchisme de l'Église catholique dit, à propos de « tu ne tueras pas », « meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement ». Donc s'il y a une violence exercée contre la vie, est-il légitime de se laisser prendre sa vie sans se défendre? Le disciple du Christ ne doit-il pas protéger sa vie à tout prix? ne doit-il pas empêcher que se commettent déjà des actes injustes, même contre lui? Voilà, c'est à ces questions-là que vont essayer de répondre la suite de l'entretien. Toujours dans ce premièrement, Jésus avait prévenu qu'il en serait ainsi. Ça peut nous étonner, il n'a pas dû faire d'études dans ses agences de publicité, de commerce, mais au moins il n'y a pas de publicité mensongère, je vous envoie comme des loups, comme des agneaux au milieu des loups, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, donc si on veut suivre Jésus, on est prévenu. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et de façon très explicite, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Luc 21, 12, 17. Voilà, on est prévenu par Jésus lui-même. Et il y a quelque chose de mystérieux de voir que ceux qui professent une religion d'amour et qui sont censés en vivre de cet amour, même si on ne le fait jamais parfaitement, il y a quelque chose de très mystérieux de voir que cette religion d'amour suscite la haine. Je reconnais qu'on peut aimer très maladroitement, que tous nos gestes ne sont pas que des gestes d'amour et que nous pouvons nous aussi évidemment être violents, mais que cette religion censée nous dicter d'aimer les autres puisse susciter un tel rejet et une telle haine est un mystère. Et en fait, il faut, pour comprendre ce mystère, resituer l'histoire dans son contexte, l'histoire, j'allais dire, universelle. Elle a commencé parce que Dieu a voulu sortir de lui-même, il a laissé déborder son cœur d'amour, et comme il n'y a rien d'autre que Dieu, il crée des êtres qui ne sont pas lui, et qui vont pouvoir reconnaître cet amour, le recevoir, en vivre et y répondre. Et le sommet de la création, nous savons, c'est l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a toute la création des êtres visibles et des êtres invisibles, créés par amour et pour répondre à cet amour. Et cette histoire universelle d'amour de Dieu pour sa création est devenue aussi l'histoire d'un amour refusé par Lucifer. Lucifer, l'ange de lumière. Et Lucifer a décrété « Je ne servirai pas ». Il n'a pas voulu être le plus grand sous l'autorité de Dieu, il a voulu être le plus grand en dehors de l'autorité de Dieu. Et donc il y a la révolte de l'ange, la haine s'est installée dans le cœur du démon, le curé d'Ars se dit « L'enfer, c'est l'éternité sans une seconde d'amour ». Voilà, c'est ce qu'est devenu Satan. Et sa haine de Dieu est tellement grande que ne pouvant pas s'en prendre directement à Dieu, il va s'en prendre à toutes ses créatures pour essayer de les retirer de l'influence divine pour se les attribuer à lui. L'indépendance n'existe pas. Ou on dépendra de Dieu ou on dépendra du démon. Il n'y a pas d'entre-deux. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que tous les anges de Dieu l'adorent. Satan a refusé d'adorer Dieu. Tout ce qui s'approche de Dieu éveille sa haine, devient l'enjeu d'un combat. Et le grand ennemi du démon, c'est le Christ, qui s'est incarné pour reconquérir ce qui avait été momentanément laissé à la domination du démon, c'est-à-dire l'homme. Satan est du verbe haïr, tout ce que le Christ représente. D'abord parce qu'il est le Fils de Dieu. En s'incarnant, il s'humilie et c'est l'opposé de ce qu'est Satan. Il s'est incarné et il est né d'une femme, dit l'Écriture, et Satan n'aime pas le mystère de la femme. Il a pris un corps, et Satan est tout ce qui peut être le corps d'une personne humaine. Et sa haine se reporte sur tout ce qui porte le nom du Christ, donc à plus forte raison, ces hommes qui ont choisi de suivre le Christ et d'en porter le nom, puisque nous sommes chrétiens. Ce n'est donc pas tant le chrétien lui-même qui suscite la haine des autres, c'est le fait qu'à travers le chrétien, c'est le Christ qu'on veut atteindre. C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait en nous. Jésus a prévenu, là encore, « Vous serez haïs à cause de mon nom ». Et notre huitième béatitude dit bien « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi ». Donc à travers nous, celui qui est visé, mais qu'on ne peut atteindre, c'est le Christ. Que le démon pensait bien avoir vaincu en le mettant sur la croix, et en fait il réalise qu'en laissant mourir Jésus sur la croix, c'est sa propre défaite à lui qui est célébrée. En l'an 112, Pline, gouverneur de Bithynie, écrit à l'empereur Trajan pour lui demander, à propos des chrétiens qui sont présentés devant son tribunal, s'il faut punir en eux le nom, même s'ils sont purs de tout crime. Donc, est-ce que être chrétien, c'est en soi un crime ? Réponse de Trajan, oui. Le Père Carré, dans son commentaire des Béatitudes. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est Saint Jean. Voilà qui est clair. La régénération, la remise à neuf de l'humanité pour son salut et pour son bonheur, se heurte à cette haine. Il s'agit d'un enfantement. Le mot est dans l'Évangile. Les manifestations de la haine font partie des douleurs de cet enfantement. Ne voyons pas là un phénomène accidentel, une passagère flambée de passion. Quelque chose d'essentiel se trouve engagé, un mystère, l'inimitié entre le mal et le Christ Sauveur. Car chaque fois que souffriront ici-bas la justice et la charité, c'est Jésus-Christ qui souffrira. Et chaque fois que sur la terre, quelqu'un souffrira pour cette justice et pour cet amour, c'est en lui, même s'il ignore le nom du Christ, le Christ qui souffrira. Le combat peut épargner tel ou tel d'entre nous. Même au premier siècle, il y a eu des accalmies, des années de rémission. Prévoyons néanmoins un tel affrontement et acceptons-le. Sauf trahison de sa part, se trouve ou bien persécuté, ou bien en puissance de l'être, celui qui vit selon sa foi, ou du moins selon les impératifs d'une conscience que travaille le ferment évangélique de la justice et de l'amour. Il n'existe pas d'échappatoire à ce dilemme. Et le Père Carré continue. Le plus dur d'ailleurs ne sera pas là. Le Seigneur a annoncé que certains persécuteurs s'imagineraient rendre ainsi un culte à Dieu. De telles aberrations se rencontrent au sein de nos églises. Par jalousie, méchanceté, étroitesse d'esprit, sottise, par sectarisme idéologique ou politique, ou bien simplement par peur d'être dérangé dans leurs habitudes, ceux-là même qui devraient comprendre, remercier, aider leurs frères, les attaquent, les dénoncent, les désavouent, les condamnent, ou encore, ce qui est une autre façon de les condamner, et celle-là est en fait bien plus répandue, les ignore volontairement, les laisse seuls. Et il y a de fait, on en reparlera plus loin, une persécution qui consiste à marginaliser celui qui pense de telle ou telle façon, à l'isoler, qui est aujourd'hui dans notre monde très redoutable. Autrement dit, Jésus nous a prévenus, et pour être tranquille, il faudrait s'éloigner du Christ. ou bien vivre dans cet état qu'affectionne particulièrement le démon, mais que vomit le Christ, c'est l'état de tiédeur. Petite parenthèse, je pense qu'on a des étapes dans notre vie spirituelle. Que celui qui s'est complètement éloigné de Dieu, qui est dans la fange, qui est dans le péché, celui-là, le démon ne s'en occupe pas puisqu'il est déjà au fond. S'il veut chercher à sortir de cet état, je pense que le démon va concentrer des attaques à ce moment-là. Saint Augustin a des pages extraordinaires. Vous savez qu'il était très tenté, et pas que tenté, par la luxure. Il raconte dans les Confessions comment 10 fois il s'est dit « ça y est, je suis presque sorti, je vais m'en sortir » et que le démon lui dit « mais tu as goûté à ce plaisir-là et tu penses que maintenant tu vas t'en débarrasser, ce sera définitif et que tu n'y goûteras plus, mais 9 fois, 10 fois, 20 fois tu as cherché, tu étais au bord de la réussite et tu penses que la 21e fois sera la bonne ?» Donc le démon va concentrer ses attaques à ce moment-là. Puis il y a une espèce d'entre-deux mou qui ne dérange plus personne, et là il nous laissera tranquille. Et si on veut passer à un stade au-dessus, qui est celui plus exigeant de tendre vers la sainteté, ça va lui devenir insupportable, et il va recommencer ses attaques plus violentes. Grand 1, deuxièmement, la persécution est dans la nature des choses. Elle s'inscrit dans ce combat apocalyptique entre Dieu et certaines de ses créatures déchues. Et le vocabulaire biblique le montre bien, il y a un combat entre la vie, c'est-à-dire Jésus, et celui qui est homicide depuis le commencement. Un combat entre la vérité et celui qui est le père du mensonge. Un combat entre la lumière et celui qui est le prince des ténèbres. Un combat entre celui qui se définit comme amour et celui qui est le refus d'aimer. Petit a, une identité forte suscite la haine. En grec, le mot martyr, vous savez, signifie témoignage. Le martyr, et un martyr, c'est le témoin. De telle sorte que nous sommes tous appelés à être des victimes. Non, pardon. De telle sorte que si nous ne sommes pas tous appelés à être des victimes, il n'en demeure pas moins que tous nous devons être des témoins. Et donc, par conséquent, en quelque sorte, des martyrs au sens du témoignage. Précision de vocabulaire. Le martyr, à proprement parler, c'est celui qui va donner sa vie. Qu'il faut distinguer du confesseur de la foi. Le confesseur de la foi, c'est celui qui a souffert pour sa foi, mais qui n'en est pas mort. Vous savez que sur les 12 apôtres, 11 sont morts martyrs et 1 est confesseur de la foi. C'est Saint Jean, qui, paraît-il, je n'y étais pas, mais a été plongé dans l'huile bouillante. Ah, vous y étiez ?
Non.
Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, moi, je ne remets pas du tout en cause, ça ne me gêne pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'en soit pas mort, c'est qu'elle ne devait pas être assez chaude. Voilà, donc toujours est-il que Saint Jean est confesseur de la foi, mais il n'est pas martyr. Et de fait, quand on fête la fête de Saint Jean, on n'est pas en rouge, mais en blanc. Et le confesseur peut avoir beaucoup souffert, mais sans en être mort. Et celui qui est persécuté englobe les deux catégories, celui qui a beaucoup souffert et celui qui a beaucoup souffert jusqu'à donner ou perdre ou gagner sa vie. Et c'est Jésus lui-même qui établit ses disciples comme témoins. Saint Jean commence sa première lettre, « Ce que nous avons vu, entendu, touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Et on l'annonce par oral et on l'annonce par toute notre vie. Et on sait bien que si je dis une chose et que j'en vis une autre, on va dire alors qu'il y a un contre-témoignage. Mais tout est témoignage, soit en faveur du Christ, soit en sa défaveur. À partir du moment où on saura que je suis chrétien, les gens, c'est pas tout à fait honnête, mais c'est comme ça, il faut le savoir, reporteront chacun de mes gestes et chacune de mes paroles au fait que je sois chrétien. Et donc l'avantage de s'être proclamé chrétien,
c'est que ça devrait être un garde-fou extraordinaire qui nous amène à surveiller chacune de nos paroles, chacun de nos gestes, et à ne faire que des gestes que cautionnerait un chrétien. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc ce témoignage va, prévient Jésus, éventuellement jusqu'à prendre sa croix sûrement et le suivre sur ce chemin de croix. Petit b, témoigner est comme une nécessité qui s'impose. Ce n'est pas des choses, des exigences qui s'ajoutent les unes aux autres. L'identité de chrétien, être disciple de Jésus, c'est être témoin. Il y a une identité. Il y a une impossibilité à se taire. Saul, persécuteur des adeptes de la voie, disent les Actes des Apôtres, après le chemin de Damas, ne peut pas s'empêcher de parler de celui qu'il a combattu quelques semaines avant. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Et non seulement il ne rougit pas de l'évangile, mais je vous lis ce qu'il raconte lui-même dans la première aux Corinthiens, tout ce qu'il a un peu subi parce qu'il annonce l'évangile. Souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité, et sans parler du reste. Et ce n'est pas seulement saint Paul, mais c'est tous les apôtres. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Et lorsqu'ils sont conduits devant le Sanhédrin et qu'ils sont battus par le Sanhédrin, ils s'en allèrent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Alors, on a pu s'imaginer que les martyrs, c'était sans doute lié à l'histoire du début de l'Église et que le Seigneur avait permis ça pour une implantation plus grande, plus rapide ou plus enracinée de l'Église. Alors, en effet, les premiers siècles de l'Église, même s'il y a eu quelques périodes d'accalmie, je crois que je ne sais plus les combien premiers papes sont tous morts martyrs. Mais c'est une erreur de faire cette vision-là de l'histoire, puisqu'on se rend compte que, avec des périodes d'accalmie, dans un point ou dans un coin ou un autre du monde, il y a eu des persécutions à toute période de l'histoire de l'Église. Et que le XXe siècle a été celui qui a eu le plus de martyrs en un siècle qu'en 19 siècles d'histoire de l'Église avant. Alors qu'il y a des martyrs les formes, ce sont, par exemple, Maria Goretti, martyr dite de la chasteté, le père Kolb, qualifié de martyr de la charité. Voilà, il y a beaucoup de... Et puis il y a tous ceux qui... Enfin, il y a ceux qui sont canonisés, ceux qui ne le sont pas, mais qui sont morts martyrs ou qui ont subi la persécution. L'Église a toujours connu des vagues de persécution en différentes parties du monde. Lorsque Jean-Paul II est venu à Compostelle pour les Journées mondiales de la jeunesse en 89, en descendant de l'avion, les journalistes l'interrogent « Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Espagne ?» Et il répond « Je suis venu saluer les martyrs du début du troisième millénaire. » Grand 2. Jésus, le premier persécuté. Le Christ ne peut demander à ses disciples de choisir les béatitudes que parce que lui les a vécues le premier, on le répète à chaque fois. Ne pourrait-on pas dire d'une certaine façon qu'il est l'incarnation de cette 8e béatitude ? Et il serait étonnant que le Christ encourage ses disciples à accepter de perdre leur vie pour mieux la gagner en vie éternelle. et que lui, le premier, n'ait pas accepté de donner sa vie. Et effectivement, il est le premier à avoir donné sa vie en sacrifice, et cette invitation de Jésus-Christ à accepter de perdre sa vie n'est possible que parce qu'on sait que la mort n'est plus une impasse, mais un passage. Et elle est devenue un passage parce que lui, le premier, a forcé le passage par sa mort et sa résurrection. Donc le Christ ne peut inviter qu'à le suivre sur le chemin sur lequel lui, le premier, a marché. On peut reprendre chaque terme de la béatitude. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Voilà, il a subi l'insulte, on l'a frappé, on l'a calomnié. Tout ça, c'est vrai d'abord de Jésus, on vient d'en entendre le récit pendant la Semaine Sainte. Alors, premièrement, dans ce grand 2, une objection. Nous avons dit que le martyre, c'était un acte de violence subi par celui qui est martyrisé, qu'on lui prend sa vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas pour Jésus. Parce que Jésus a toujours organisé son ministère public de façon à nous faire comprendre qu'il reste maître des événements. Il monte à Jérusalem, mais il organise son parcours pour aller à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que doivent mourir les prophètes. Il annonce par 3 fois qu'il va à Jérusalem pour y mourir, pour y souffrir, pour y mourir et y ressusciter. À plusieurs reprises, on veut soit le lapider, soit le précipiter du haut de la falaise, et il explique qu'il passe au milieu d'eux parce que son heure n'est pas encore venue. Donc Jésus reste maître de l'heure, de son heure. Et il expliquera au chapitre 10 de Saint Jean, le Père m'aime parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, à cette différence près qu'on ne prend pas la vie de Jésus, mais que c'est lui qui la donne, parce que maintenant il veut bien, j'allais dire, se laisser faire, il y a bien eu une violence extrême exercée contre Jésus, au point que non seulement il a été persécuté, mais qu'il en a perdu la vie. Et dans la litanie, on dira que c'est le roi des martyrs. Donc le premier point, c'était l'objection. Deuxièmement, Jésus est bien le roi des martyrs. Jésus connaît réellement la souffrance. On avait déjà abordé cette question-là dans la méditation sur la béatitude des affamés et assoiffés de justice. De quelle manière Jésus nous rendait justes. Je vais juste rappeler que non seulement il nous a dispensé de payer la dette que l'humanité lui devait, que chaque homme lui doit, parce que chaque homme est insolvable, aucun homme ne peut lui donner ce qui est nécessaire pour la rémission de ses péchés, et non seulement il nous remet la dette, mais il la paye à notre place. Le jeudi saint, pour annoncer ce qui va se passer le lendemain au calvaire, voici mon corps livré, voici mon sang versé, pour vous. Pour vous, c'est en votre faveur, et pour vous, c'est à votre place, puisque vous n'êtes pas capable de le faire. Un seul, écrit le philosophe Kierkegaard, a été véritablement persécuté, le seul qui l'eût été injustement, Jésus-Christ. Et donc, à ce que j'avais déjà dit il y a quelque temps, je voudrais rajouter une réflexion du cardinal Journet. C'est le cardinal Journet qui parle. Jésus a souffert moralement et physiquement au-delà de ce que nous pourrons jamais savoir ici-bas. Il a vu chacun de mes péchés, chacune de mes trahisons, chacun de mes refus de sa vérité. Par-dessus tout, il a prévu ces mépris effrayants par lesquels des âmes se sépareraient définitivement de son amour. Sa souffrance est celle du sauveur du monde, non celle d'un damné. Elle est satisfaction, non punition. Elle est lumineuse, non désespérée. Mais la souffrance d'un Dieu qui meurt pour nous est plus déchirante que la souffrance du désespoir. À elle seule, il est donné de mesurer pleinement l'abîme qui sépare le bien et le mal, le ciel et l'enfer, l'amour et la haine, le oui dit à Dieu et le non dit à Dieu. À elle seule, il est donné de pouvoir connaître jusqu'au fond, de pouvoir assumer tout entier, de pouvoir offrir à Dieu le prix exigé pour la rédemption du mal et la refonte de l'univers. Que la souffrance lumineuse de la rédemption passe par toute la souffrance des désespérés, qu'elle soit la plus intense de toutes les souffrances, et l'ombre de ce que serait, si elle était possible, la souffrance de la divinité même, c'est un nouvel aspect du mystère de l'incarnation. Il ne faut pas permettre qu'il soit méconnu. Il a connu la plus intense des douleurs corporelles, car sa sensibilité était la plus délicate qui ait jamais existé, celle d'un corps formé immédiatement par l'Esprit Saint dans la Vierge Marie, et la vie qu'il abandonnait était d'un prix inestimable en raison de son assomption par la divinité. Alors, ce texte est peut-être un peu difficile, mais je trouve une fois de plus, je vous l'avais dit sans doute cette année, déjà l'année dernière, que tous ces auteurs différents projettent tous la même lumière dans la même direction. Et je trouve que c'est un réconfort dans l'Église catholique de savoir qu'une pensée est confirmée par d'autres, qu'il y a ces éclairages multiples qui éclairent un seul mystère. Et la deuxième chose que je trouve très belle dans ce passage du cardinal Journet, qui est tiré des sept paroles du Christ en croix, c'est précisément cette lumière projetée sur le mystère du Christ, la personne du Christ. Et que l'amour de notre vie, ça doit être le Christ. Et qu'on doit être, même si on n'en saisit pas tout, on doit être émerveillé et dans l'action de grâce de ces pépites de lumière qui jaillissent un moment ou un autre parce que quelqu'un met un éclairage dessus. Donc Jésus a connu réellement la souffrance. Petit b, Jésus reste dans la joie. Et ça aussi, j'en avais déjà parlé dans la béatitude des cœurs purs et de ceux qui pleurent. Tout en souffrant, et au moment même où Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus demeure dans la joie de la vision béatifique. La partie supérieure de son âme est dans la vision béatifique. Il ressent dans sa sensibilité humaine cet abandon du Père, et en cela il rejoint l'humanité et tous ceux qui, dans leur souffrance, auront l'impression d'être abandonnés de Dieu, comme quoi il ne laisse personne sans l'avoir rejoint, mais une part de lui reste dans la vision béatifique. Et donc, dans la personne du Christ, il y a en même temps cette joie et cette souffrance extrême. La joie de Jésus, elle n'est pas simplement dans le fait qu'une fois qu'il est mort, enfin, sa douleur a cessé. Il a la joie très profonde, j'allais dire de la satisfaction du devoir accompli, sachant que ce devoir, c'est l'obéissance qu'il a promise à son Père. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et il trouve dans cette obéissance l'expression de l'amour de son Père, pour son Père, et donc une joie extraordinaire à avoir aimé son Père et le lui montrer jusque-là. Enfin, il goûte la joie. Dans les Actes des Apôtres, il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il goûte la joie d'avoir fait ce don ultime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il donne sa vie parce qu'il aime le Père et parce qu'il aime les hommes. Troisième grande partie. Le sens de cette béatitude, donc sur les persécutés. Premièrement, qui sont ces bienheureux? On ne peut pas dire que tout le monde est bienheureux parce qu'il va souffrir. Il faut même, et c'est ce qu'on va faire maintenant, préciser que ce n'est pas forcément parce que je suis chrétien et que je souffre que je suis bienheureux, au sens de la béatitude. Il ne suffit pas de souffrir, même au nom de sa foi, pour que la cause soit juste. Alors, petit a, il y en a qui n'entrent pas dans cette catégorie des bienheureux malgré l'apparence. Précisons d'abord que la religion catholique ne cherche pas de candidat au martyr. Nous n'avons pas besoin de volontaires pour quelque opération de kamikaze que ce soit. Nous vivons le martyr comme à la fois une grâce et comme un drame, que la paix ne soit pas instaurée. Mais nous ne recherchons pas de candidat au martyr ni de volontaire pour le martyr. Le martyr est un acte de violence accepté, non pas recherché. Et celui qui goûte cette béatitude ne la goûte pas parce qu'il souffre, mais parce que, grâce à Dieu, il persévère jusqu'à tenir bon dans la souffrance et même jusqu'à la mort. L'Épître aux Hébreux dit « Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. » La phrase des Hébreux, je peux la répéter. D'ailleurs, je vais le faire. Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Hébreux 3,14. On sait par exemple que saint François d'Assise aurait voulu mourir martyr, qu'il a traversé la Méditerranée, qu'il est allé voir dans les musulmans de bordure de Méditerranée, et que le sultan l'a reçu, qu'il y a eu un dialogue entre eux, mais que le sultan l'a laissé repartir, et que le Seigneur avait d'autres vues sur lui que celle de mourir martyr. Monseigneur Lustiger écarte quelques cas, je le cite, « Pour obtenir la bénédiction promise aux persécutés pour la justice, il ne suffit pas de s'estimer incompris et maltraité. Ce n'est là qu'une attitude pathologique. » Ce peut être une forme de paranoïa, le délire de la persécution. Être persécuté pour la justice, au sens évangélique du terme, ce n'est pas simplement souffrir alors qu'on est innocent ou plus qu'on ne le mérite. Il met aussi en garde contre tout idéalisme. Être persécuté pour la justice, ce n'est donc pas rêver d'un monde idéal que l'on porterait en soi. C'est, au contraire, entrer dans le rude et réalisme travail de sa propre délivrance et du salut du monde entier. C'est partager solidairement l'œuvre rédemptrice de Jésus. Voilà. Nos démarches, quelles qu'elles soient, ne prennent du prix que parce qu'elles sont faites en lien avec le Christ. Je vais vous lire un petit texte qui n'est pas précisément d'un père de l'Église, qui est de Mao Tse-tung, tiré du Petit Livre Rouge. J'estime que l'absence d'attaque de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose, car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, car cela prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celui-ci nous attaque avec violence, nous peignant sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux, car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. Et la personne qui rapporte cette citation dans le livre que j'ai lu fait le commentaire suivant, « Excellent commentaire de la 8e béatitude ». Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, parce que lui en fait c'est dans un contexte politique, que la béatitude, quand Jésus parle, ne se situe pas dans un contexte politique. Notre but n'est pas de nous démarquer du monde. Notre but est de vivre l'Évangile. Il se trouve que le monde s'est éloigné de Dieu. Donc, en vivant l'Évangile, nous devenons signe de contradiction. Nous devenons un peu un caillou dans la chaussure du monde. Et ce caillou dans la chaussure du monde va susciter l'opposition. Mais ce que nous ne recherchons pas, c'est ce que nous recherchons, ça n'est pas de prendre systématiquement l'opposition du monde. Notre point d'identification, c'est le Christ. Nous voulons vivre comme le Christ et nous regrettons que le monde ne vive pas dans le Christ. Alors bien sûr qu'il faut se garder du monde. Je ne vous retire pas du monde, je vous envoie dans le monde et je prie le Père de vous garder du mauvais. On est d'accord. Mais notre but n'est pas de nous démarquer systématiquement du monde. Et tant mieux si on peut vivre, alors peut-être que ça veut dire que le sel se sera affadi, mais notre but n'est pas de chercher l'opposition, et plus on sera attaqué, plus ça veut dire qu'on aura marqué notre opposition. Le chrétien ne cherche à vivre que pour Dieu. Que signifie être persécuté pour la justice ? Parce qu'il ne suffit pas de dire la catégorie des gens qui ne rentrent pas dans la description de cette béatitude, il faut quand même dire ceux qui peuvent y rentrer, parce qu'il y en a. Jésus parle d'être persécuté pour la justice. Et nous avons vu dans un entretien précédent ce qu'est la justice de Dieu. Il y a un profond désordre qui a été instauré dans le monde et dans le cœur de chacun comme conséquence du péché originel. La justice consiste à remettre de l'ordre, et de l'ordre d'abord dans notre propre cœur, c'est-à-dire tourner vers Dieu et donner à Dieu, j'allais dire, la première place. Mais la première place ne suffit pas. Il faut donner à Dieu toute la place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toute ton intelligence. Et lui nous renvoie à nos frères. Mais Jésus, j'allais dire, n'est pas un démocrate qui veut 51%. Il veut tout. Puisque tout lui appartient, qu'il a donné sa vie pour tout récupérer. Donc, la justice consiste à remettre de sa part, en versant son sang, les fautes que nous étions incapables d'effacer. Et plus que ça, je vous l'avais dit aussi, je pense, il ne veut pas simplement rétablir l'équilibre des plateaux de la justice, il veut donner à l'humanité plus qu'elle n'a perdu. Saint Pierre a cette phrase très forte, « Nous devenons participants de la nature divine » et les pères de l'Église vont jusqu'à dire « Nous sommes divinisés ». Si en soi l'acte commis par le persécuteur est un acte injuste, il faut que celui qui est persécuté soit lui-même dans de justes dispositions de cœur et d'esprit, pour pouvoir être dit bienheureux. C'est-à-dire, pour quel motif subit-il la persécution ? Et ça, c'est du côté du persécuteur. Et dans quel état se trouve-t-il lorsqu'il subit la persécution ? Et la réponse se trouve dans le cœur de celui qui est persécuté. Alors, du côté du persécuteur, ce n'est pas le supplice, c'est sa cause qui fait le martyr, écrit saint Augustin. Donc il ne suffit pas de souffrir, il faut souffrir pour le nom de Dieu, pour le nom du Christ. Le persécuteur agit en haine de Dieu, et cette haine va se reporter sur les représentants de Dieu, donc le chrétien qui porte le nom du Christ. Mais encore faut-il que, par son comportement, le chrétien n'ait rien fait qui justifie qu'on le haïsse. Que le chrétien n'ait pas eu un comportement qui suscite de la rancœur dans la personne qui est en face de nous. Le père Cantalamessa dénonce cette attitude ambiguë du croyant. Ce ne sont pas tous les persécutés qui entrent dans la catégorie de ceux que Jésus proclame bienheureux. La condition fondamentale pour qu'ils y entrent est qu'il n'y ait aucun mélange de rôle entre persécuteur et persécuté. Jésus recommandait à ses disciples d'être comme des agneaux au milieu des loups. Une autre forme de confusion entre les rôles est également le martyr-provocation, dans lequel c'est le martyr qui suscite la persécution par son attitude de défi. Il faut que notre cœur soit parfaitement pur. Alors, il y a un acharnement du persécuteur, parce qu'après tout, il pourrait nous haïr et puis décider de nous laisser tranquilles. Donc non seulement il y a cette haine, mais qu'il entretient et qui va chez lui passer à l'acte. Je saute ce petit passage. Alors, pour celui qui est persécuté, il faut une droiture de sentiment. On ne demande pas à celui qui est persécuté d'être exempt de tout péché, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est le Christ, et la Vierge Marie, bien sûr. Mais on lui demande d'être dans une certaine disposition bienveillante vis-à-vis de celui qui les persécute, et de ne pas avoir s'être remis lui-même dans une situation, je le répète, qui va susciter la haine ou le désir de vengeance. Parmi les souffrances du persécuté, il y a celle de constater que l'amour dont il veut aimer tout homme suscite la haine ou la violence, et il va retourner cette haine en faisant une arme de grâce. Il va en tirer un surcroît d'amour pour vaincre le mal par le bien. Et on a pu dire que la victoire des martyrs, ils ont vécu et ils sont morts en aimant. Et en aimant même ceux qui sont en train de les persécuter. Et en agissant ainsi, ils montrent dans le même acte un amour supérieur à la haine de ceux qui sont en train de les tuer. Vaincre le mal par un bien plus grand. Le cardinal Lustiger. C'est suivre le Christ, prendre son joug sur ses épaules, c'est-à-dire le commandement d'aimer comme il aime, et donc porter sa croix, s'engager dans une vie qui a beaucoup plus de portée et de signification que soi-même et les autres n'en ont conscience. Pourquoi ? Parce que le disciple s'efforce de vivre avec Jésus en fils de Dieu. À travers le comportement de qui se rend semblable à lui, le Christ donne de voir quelque chose de l'amour infini dont Dieu aime ses enfants. Autrement dit, au-delà du chrétien qui meurt peut-être en bénissant, en pardonnant, en aimant, je vois plus grand que lui. Par ses frères et sœurs du Fils, la délivrance fait son chemin dans le monde. Leur vie devient un signe du royaume, quels que soient leurs défauts, leurs péchés, leur image sociale. Comme le dit l'apôtre Paul, ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Prendre la suite du Christ requiert alors d'accepter dans l'amour cette persécution et de pardonner. Si le chrétien laissait le ressentiment et la haine pénétrer dans son cœur, il ne serait plus persécuté pour la justice. Il faut donc que dans le cœur de celui qui est persécuté n'entre aucun orgueil et aucune suffisance, que le cœur ne se gonfle pas. L'humilité des martyrs se manifeste également par leur peur et leur répugnance face à la mort. Ce sont des martyrs, mais avant tout des hommes. Et donc ce qui fait le martyr, avant même la cause, si elle est juste, c'est la grâce de Dieu. Alors le chrétien n'a pas été configuré au Christ par sa seule mort, en offrant sa vie comme lui, mais aussi par une identification de son cœur au cœur de Jésus. C'est saint Paul qui dit « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Et non seulement j'imite Jésus en reproduisant sa mort, un acte semblable à la sienne, mais j'essaye que mon cœur ressemble au cœur de Jésus au moment où je pose cet acte. Et donc il y a inévitablement le moment où celui qui accepte de subir la persécution a surmonté sa peur. On pourrait faire toute une conférence sur la peur. Je vous lis ce passage du cardinal Wyszyński, primat de Pologne à l'époque du cardinal Wojtyla, qui a été en prison. La peur est le plus grand manquement de l'apôtre. C'est le manque de foi dans la puissance du maître qui réveille la peur. Cette dernière serre le cœur et rétrécit la gorge. L'apôtre cesse alors de professer. Reste-t-il apôtre ? Les disciples qui abandonnèrent le maître augmentèrent le courage des bourreaux. celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardie. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardit les ennemis de cette cause. Par la peur contrainte à se taire, telle est la première tâche dans la stratégie impie. La terreur utilisée par tout dictateur est calculée sur la peur des apôtres. Le silence ne possède son éloquence apostolique que lorsqu'il ne détourne pas son visage devant celui qui le frappe. Et ça, on pense à Jésus dans sa passion, selon le récit rapporté par saint Jean. À certains moments, Jésus ne répond pas à Pilate, non pas par peur, mais parce qu'il sait que Pilate n'est pas dans les dispositions pour entendre, au moment même où on le gifle. C'est ce que fit le Christ en se taisant, mais par ce signe, il démontra sa propre force. Le Christ ne s'est pas laissé terroriser par les hommes. Sorti dans la foule, il dit avec courage, « C'est moi ». Premièrement, qui sont ces bienheureux? Deuxièmement, goûtez déjà la joie de perdre sa vie pour le Christ. Dans cette profonde union avec le Christ, le croyant trouve sa joie, d'abord parce qu'il est uni au Christ, ensuite parce que par cette occasion, il montre jusqu'où va son amour pour lui. Saint Jean dit au moment où Jésus entre dans sa passion, « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Il est donné aux disciples de Jésus d'aimer jusqu'au bout. Et il manifeste la force de sa foi. Il croit qu'il peut franchir ce passage de la mort que parce qu'il est certain de quelque chose, d'une réalité dont il n'a pas fait l'expérience, mais que le Christ lui a promis, dont il est certain, c'est la vie éternelle, c'est la résurrection. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous lis quand même, parce que ça c'est très joli, saint Ambroise fait une homélie à l'occasion de l'anniversaire du martyr de sainte Agnès. Jeune fille, frêle, Elle ne se serait pas hâtée vers la chambre nuptiale le jour de son mariage, comme elle s'est avancée d'un pas joyeux, étant vierge au lieu de son supplice. C'est le Christ qui était l'ornement de sa tête, et non pas une coiffure compliquée. Elle n'était pas couronnée de fleurs, mais de vertus. Quelle menace son bourreau a-t-il employée pour lui faire peur? Quelle flatterie pour la fléchir? Combien de promesses pour lui faire accepter de l'épouser? Mais elle, c'est faire injure à mon époux d'attendre celui qui doit me plaire. Celui qui le premier m'a choisi, c'est lui qui me recevra. Pourquoi traînes-tu, exécuteur? Qu'il périsse le corps qui peut être aimé pour avoir charmé les yeux, ce que je refuse. Elle se leva, pria, tendit le cou. Heureusement qu'il y a des gens comme ça quand même, hein. Le père Carré fait cette remarque. Cette souffrance, va-t-on chercher à l'éviter? En fait, il eût parfois suffi de peu de choses, d'une réponse ambiguë, d'une restriction mentale pour obtenir l'acquittement. Il y en a qui vont donner cette réponse ambiguë, il y en a qui vont faire cette restriction, il y en a qui vont renier le Christ parce qu'à ce moment-là, ils ont eu peur. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je frémis rien qu'au récit qu'on peut entendre de certaines situations, donc je ne sais pas ce que je ferai dans ces situations-là. Il y a dans l'Ancien Testament le vieillard Éléazar, vous savez, qu'on veut condamner à mort parce que finalement il reste fidèle à des coutumes juives, et en particulier celle de ne pas manger un plat interdit. Et on veut que Éléazar mange et donne ainsi l'exemple à toute la jeunesse qu'on peut céder sur certains points. Et on va jusqu'à lui dire, le plat qu'on va te préparer, c'est un plat que tu es autorisé à manger. Donc tu ne commettras pas de faute, puisque ce plat, tu as le droit de le manger. Et lui répond, mais ce que vous me proposez là est ignoble. Moi je saurai, mais les autres ne le sauront pas, donc je vais les scandaliser. Et vous voulez que je les scandalise pour préserver ma vie de quelques mois alors que je suis déjà très âgé, et de perdre ainsi mon union avec Dieu.
Gilbert Cesbron, il leur serait si facile de se rétracter, cela mettrait tout le monde à l'aise, mais ils préfèrent affronter le bûcher un instant plutôt que leur conscience le reste de leur vie.
Bon, je pourrais vous citer des tas de témoignages. Troisièmement, de ce grand 3, il y a bien des formes de persécution. En gros, deux formes de persécution, la violente, qui frappe, qui emprisonne, qui va jusqu'à tuer, qui exile en Sibérie. Et puis il y a une forme plus cachée, plus sournoise, apparemment plus douce, qui marginalise, qui moque, qui fait perdre un emploi, qui n'embauche pas parce que. Sainte Thérèse de Lisieux disait, il y a le martyr par l'épée, et il y a le martyr coup d'épingle. Donc les deux grands motifs, je peux accepter de mourir parce que je veux rester fidèle au Christ, aux vérités qu'il a révélées, parce que finalement les vérités qu'il a révélées concernent Dieu et qu'il s'est lui-même identifié à la vérité. Je peux désirer accepter de mourir pour être fidèle à ma conscience. C'est Thomas More, vous savez, le chancelier anglais. C'est Jean-Baptiste qui aurait pu, de son désert, critiquer Hérode et dire à la foule assemblée là, il n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Mais qui va jusqu'à dire à Hérode, parce que ce qui l'intéresse, c'est le salut de l'âme d'Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et malgré ça, Hérode l'aime bien. Alors il l'a fait emprisonner, mais il ne veut pas le tuer parce qu'il aime bien parler avec lui. Et on connaît la suite. Voilà. Jean-Baptiste est un martyr de la fidélité à sa conscience. Et Jean-Paul II, dans son encyclique La splendeur de la vérité, encourage. Il y a en ce moment un projet de loi qui cherche à supprimer l'objection de conscience de tous ceux qui participent à l'avortement. Excusez-moi de ce que je vais dire, je suis sidéré du silence, de l'absence de réaction. L'avortement est gravissime et ne pas reconnaître à quelqu'un qu'il a une conscience qui l'interdit de participer à ce geste, ça veut dire que le choix va se poser très concrètement pour tout médecin, tout infirmier, toute infirmière catholique, ou pas catholique mais qui refuse l'avortement, soit de démissionner, et on perd un tiers de nos infirmiers, de nos médecins, ou la moitié, je ne sais pas combien, des hôpitaux, ou de participer à un acte que leur conscience réprouve. Et il n'y a pas une voix qui s'élève pour dire quoi que ce soit. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas entendu. Pardon ?
Le cardinal, il ne s'est pas élevé.
Alors, il s'élève contre d'autres points. Sur ce point-là, moi, je ne l'ai pas entendu.
Mais non, c'est ce que
je dis,
il n'a pas parlé.
Ah, voilà.
Alors, pourquoi
Pardon ? Non, mais vous pouvez vous insurger, chacun doit s'insurger à son niveau, moi je m'insurge devant vous, mais je pensais à des niveaux au-dessus. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Si le martyr représente le sommet du témoignage rendu à la vérité morale, auquel relativement peu de personnes sont appelées, il n'en existe pas moins un témoignage cohérent que tous les chrétiens doivent être prêts à rendre chaque jour, même au prix de souffrances et de durs sacrifices. Pardon. En effet, face aux nombreuses difficultés que la fidélité à l'ordre moral peut faire affronter, même dans les circonstances les plus ordinaires, le chrétien est appelé, avec la grâce de Dieu, implorée dans la prière, à un engagement parfois héroïque, soutenu par la vertu de force par laquelle, ainsi que l'enseigne Saint Grégoire le Grand, il peut aller jusqu'à aimer les difficultés de ce monde en vue des récompenses éternelles. Je crains que notre société suscite dans les années qui viennent un bon nombre de persécutions, certainement, c'est-à-dire de gens qui seront acculés à perdre leur emploi, qui seront marginalisés, qui seront brimés dans leur vie, et qu'il n'est pas exclu que ça aille jusqu'au martyre. Voilà, je voulais vous lire un passage du Père Cantalamessa, mais je le saute. Quatrièmement, se préparer au martyre. Je pense que, sauf exception, j'ai lu dans un livre cette histoire qui m'enchante, des légionnaires de la Légion étrangère, donc des bons, des solides, qui ne sont pas tous des piliers d'église, qui ont été, au cours d'une manœuvre, prisonniers par des musulmans. C'était je ne sais pas quand. Et les musulmans ont tracé une croix sur le sol, et ils ont dit, voilà, maintenant vous marchez, vous piétinez la croix. Et ces bons légionnaires, qui étaient sans doute pas allés à la messe le dimanche précédent, ont refusé de marcher, de piétiner la croix. Clac, tous décapités. En un instant, ceux-là, ils sont morts au nom du Christ pour leur foi. Pour leur foi qui était, enfin, ce que le Seigneur connaît, du secret de leur cœur. Mais, alors, face à la peur, face à la réaction de la peur, il n'y a pas de, ça n'est par définition pas rationnel. On peut avoir des gens très lâches et qui, à cette heure-là, poseront un acte de courage ultime, extraordinaire. Et on peut avoir des gens très courageux qui flancheront, quitte à revenir après. Bon, il y a tous les cas de figure. Je pense quand même qu'il peut y avoir une règle générale qui est vraie pour toute la vie et donc aussi pour ce cas particulier où l'ensemble de ma vie me prépare à un acte ultime. On peut penser peut-être qu'on meurt comme on a vécu. Voilà, vous avez été fidèle en peu de choses, il vous en sera confié de grandes, dit Jésus dans l'Évangile. Et si je m'exerce à avoir une vie droite, honnête, avec la grâce de Dieu, à forger une volonté forte, à développer ma vertu, on peut penser que toute cette préparation de toute ma vie me préparera à poser cet acte ultime s'il m'est demandé. Vous m'accordez combien de temps encore ? 3 minutes. Bon, je finis juste par un texte. Bon, je suis désolé, je saute la quatrième partie. La quatrième partie, c'était « Le royaume des cieux est à eux ». Et je finis en vous lisant un texte de Benoît XVI. Décidément, il nous enchante. La charge de l'annonce et l'appel à la souffrance pour le Christ vont de pair inséparablement. L'appel à devenir le maître des nations est dans le même temps et intrinsèquement un appel à la souffrance dans la communion avec le Christ. Dans un monde où le mensonge est puissant, la vérité se paye par une souffrance. Celui qui veut éviter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle-même et sa grandeur. Il ne peut être serviteur de la vérité et donc un serviteur de la foi. Il n'y a pas d'amour sans souffrance, sans la souffrance du renoncement à soi-même, de la transformation et de la purification du moi pour la véritable liberté. Là où il n'y a rien qui vaille la peine de souffrir, la vie elle-même perd sa valeur. Nous vivons de cet amour qui se donne. Il nous donne le courage et la force de souffrir avec le Christ et pour lui dans ce monde, en sachant que précisément ainsi notre vie devient grande, mûre et véritable. La souffrance de Paul le rend crédible comme maître de la vérité. Voilà, j'ai promis que je m'arrêtais là, je m'arrête. Merci. Merci à vous. Madame. Les martyrs d'Israël, je crois. Oui, les Maccabées. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, que la dernière, celle du mois de juin, n'aura pas lieu le 3 juin, mais le 10 juin. Merci beaucoup.